Chers amis, Hachem Alechem Tihayou, le Orechemin Tovim Veshanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vayetse. Alors nous allons revenir un instant sur la sortie de Yaakov de Beersheba. Et c'est le Beshem Adonai Yosei Shamayim Barez. À la fin de la Parasha précédente, il est dit, donc nous avons déjà mentionné l'idée que Yaakov va accomplir parfaitement la volonté de ses parents. Cependant, il va tarder à revenir. Et par rapport à ça, on va lui compter 22 ans, les 22 ans d'éloignement, comme étant un manque de respect. Il n'a pas accompli la mitzvah de Kivud Av. Il a accompli la mitzvah pour sa mère, d'écouter sa mère, mais pas son père. Parce que son père ne lui a pas dit de tarder à revenir. Toutefois, à la fin de la paracha, il est dit Vaishma Yaakov, de la paracha précédente, paracha Toldot, il est dit Vaishma Yaakov et la vive, Vélimo, Vayeler Padena Aram. Donc on dit que Yaakov, il a parfaitement accompli la volonté de son père et de sa mère, il est parti chez Padena Aram, chez Lavan. Pasouk suivant, après il est dit, Ishmael Esav, Vayar Esav qui raot, donc Esav a vu que les filles de Canaan n'étaient pas bien aux yeux de son père, donc il a dit, je ne vais pas contrarier mon père. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vayar Esav El Ishmael, donc il est parti chez Ishmael, et il a pris la fille de Ishmael. Vayka et Mahlat bat Ishmael ben Avraham, Ahot Nevayot. Donc il s'est marié avec Mahlat Bat Ishmael, la sœur de Nevayot. Et Rashi ici nous fait un long développement. Pourquoi il est dit Ahot Nevayot? Nous savons pertinemment qu'elle est la fille d'Ishmael. Pourquoi? Pour que c'est Mahlat, c'est la sœur de Nevayot, et que c'est la fille d'Ishmael. Alors pourquoi préciser? Mais pour nous dire qu'à ce moment-là, Ishmael est mort. Donc, et que lorsque Rashi fait un calcul, que lorsqu'Ishmaël est mort, alors Yaakov avait 63 ans. Et quand il arrive chez Lavan, il a 77 ans. Donc, il y a 14 ans qui sont passés à l'as. On ne sait pas où ils sont passés. Et c'est pour ça que Rashi dit, dans son commentaire, il dit ça, Yaakov, que Shemet Ishmael, ben Samer Gimel Shani, que lorsque Ishmael est mort, Yaakov, il avait 63 ans. Mais la Madnomikan, et de là nous avons appris, chez Nitman Bebet, Aever Yud Dalet Shana, que Yaakov s'est réfugié, il s'est installé dans la Yeshiva de Aever pendant 14 ans. Et c'est seulement après qu'il est parti chez Lavan. Ici, il y a une écoute intéressante. Parce que Rashi nous dit qu'il est parti seulement à la yeshiva de Haever, et pas de Shem. Et si Techachamim sur place soulève ce problème, voilà que lorsque Rivka était enceinte et qu'elle avait des difficultés, elle sentait l'enfant dans une grossesse difficile, elle est partie demander. Et là-bas, il dit, et là-bas, il est dit qu'elle est partie, Rachid dit lui-même, qu'elle est partie chez Shem et Ever. Et on voit aussi que Yaakov, il est Yoshev Oalim. Mais c'est Yoshev Oalim, Yoshev Oel. Pourquoi Oalim? Au pluriel. Alors, il était Yoshev dans la yeshiva de Shem et la yeshiva de Ever. Donc, il y a deux yeshivot. Et là, il n'y a qu'une seule yeshiva. Pourquoi Rashi souligne que Shem a déjà quitté ce monde. Donc il y a deux limoudim. Il y a Shem et il y a son petit-fils qui est à Ever, qui a un autre limoud. Donc il s'agit d'analyser, de méditer, de réfléchir, de comprendre qu'est-ce que c'est la yeshiva de Shem et de Ever. Pourquoi deux yeshivot? Et pourquoi donc? Et quelle différence avec la yeshiva de Yitzhak? Yitzhak aussi a marqué la Gemara Yoma, il dit Yitzhak, Zaken, Vaïki, Zaken, Yitzhak. Il a marqué Zaken, Yitzhak Avinu Zaken Veyoshev Bishiva. Donc il a un enseignement, il y a du limoud. Alors quel intérêt, qu'est-ce qu'il y a de spécial à aller? Yaakov, à l'âge de 63 ans, il va se réfugier chez Ever, la yeshiva de Ever, pendant 14 ans. Et on dit que quand il va se coucher, va ishkav bamakom ahou, quand il revient, qu'il passe la nuit sur l'endroit du Beit HaMikdash, a marqué va ishkav bamakom ahou, Rashi souligne, bamakom ahou shachav, c'est là où il s'est couché, mais pendant 14 ans, il était chez Shem Ever, là-bas il dit Shem Ever, il ne s'est pas couché. Donc, la question qui se pose, a priori, Quelle Torah est dispensée chez Shem et Ever? Quelle Torah est dispensée dans le Beit HaMidrash de Yitzhak? Quelle différence y a-t-il? Est-ce qu'on pourrait dire, on fait une comparaison avec aujourd'hui, alors on dit quelqu'un il étudie dans une grande yeshiva, il étudie à Ponyevitch, ou il étudie à Mir, ou il étudie à Hebron. Quelle différence il y a? Il étudie à Porat Yosef, ou dans une autre yeshiva, Swaradi, Ashkenazi, Litaï, ou bien Hasidi. Il étudie la Torah. Est-ce que la distinction qu'il y a entre la yeshiva de Shem, d'une part, celle de Haever, et celle de Yitzhak, et la même distinction que l'on peut faire entre les yeshivot qu'il y a de nos jours, les grandes yeshivot, l'itayot, ou bien sfaradiot, ou bien c'est une autre dimension, c'est autre chose. Et il est à noter que la Gemara dans Megillah a dit que les 14 ans où il y a Yaakov et ses réfugiés à étudier la Torah chez Ever ou chez Shem, ne lui sont pas comptés comme étant une transgression, un manque de respect vis-à-vis de son père. Ça, c'est pas compté. Alors qu'il aurait pu parfaitement étudier chez son père. Et il faut pas dire non plus qu'il s'est réfugié pour se sauver de Esav. Parce qu'Esav aurait très bien pu envoyer un commanditer un meurtre de loin, à distance, et envoyer quelqu'un tuer Yaakov quand il est chez Shem et Ever, alors qu'il n'aurait pas pu le faire à côté de son père, parce que lui-même dit, j'attends que mon père disparaisse pour m'occuper de Yaakov. Donc tant que Yaakov est près de Yitzhak et étudie dans sa yeshiva, dans son Beit HaMidrash, alors il est préservé. Donc a priori, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi va-t-il chez Shem Ever, ou chez Ever, ici dans ce Rashi-là, a priori. De plus, pourquoi 14 ans? Pourquoi ne se contente-t-il pas de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans? Et pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Quel est le sens de ces 14 ans-là? Alors là, il y a lieu de méditer, de réfléchir. Quelle est la distinction, comme nous l'avons dit, le limud à Torah de Avraham Avinu, le limud à Torah qui a été transmis Yitzhak Avinu, et la différence avec celui de Shem Ever. Ça, c'est très important pour comprendre pourquoi il va dans tel yeshiva et pas dans tel autre. En effet, a priori, il y a une différence fondamentale. Chachamim nous disent que Eliezer, aya dole ou mashke mitorato shel Avraham Avinu. Eliezer, il maîtrisait parfaitement le limo de la Torah de Avraham Avinu. Et il l'enseignait aux autres. Le Farshim s'interroge et dit, comment c'est possible? Si Avraham Avinu qui aime kol la Torah kula, il a accompli toute la Torah. Comment pouvait-il autoriser Eliezer à enseigner, à étudier et à enseigner? Voilà que si on le considère comme un goy, Alors il est assourd, il est chayav mitabi des shamaim, il ne peut pas enseigner la Torah, c'est dangereux pour lui, c'est interdit. Alors certains commentateurs disent, non, en vérité, Eliezer, il n'enseignait, il n'apprenait. Abraham Avinu ne lui enseignait. Et Eliezer ne maîtrisait que les Shiva Mitzvot Bnei Noach, ce qui était particulier pour les Bnei Noach. Bien que, a priori, ça ne correspond pas à ce que Chazal dit. Il maîtrisait la Torah, Aya Cholet Bébé. Torah Trabo. Donc Abraham, il savait toute la Torah. Brachot, Moed, il savait les Shisha Sidre Mishnah, si on veut. Zraim, Moed, etc. Nashim, Nezikim, Kodashim et Taharot, il savait tout. Alors il enseignait tout. Et si on dit que Eliezer, il maîtrisait tout, donc il maîtrisait aussi Kodashim et Taharot, Vechoule. Donc c'est difficile de dire qu'il se restreint juste au Shiva Mitzvot Bnei Noach. Alors, quel est le sens de l'imout de Avraham Avinu? Et quel avantage y a-t-il pour Yaakov d'aller entendre? Quelle différence il y a avec le l'imout de Shem et Ever? Les Chahora, a priori, Shem détient son limoud de Noach. Et Noach, il maîtrisait, on voit que Noach, c'est marqué dans les psukim, que Noach, il maîtrisait l'ensemble de la Torah, puisqu'il savait, Chazal nous dit, quand il fait rentrer Abema, Théora, Abema, Shehena, Théora, donc il savait, Mashéati, Diotahor, il savait les behemoth qui allaient être autorisés à la consommation, et les animaux qui n'allaient pas être autorisés à la consommation. Donc, il y avait une maîtrise parfaite de ce que, du devenir, de ce que allait être la Torah dans le futur. Donc, il maîtrisait. Donc, c'est ça ce qu'il a enseigné. Donc, il n'y a pas a priori de différence. Mais il n'y a pas. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas une différence dans le texte. Mais il y a une différence dans l'engagement et la manière d'étudier. Et on pourrait comparer cela au Limoud au Moyen-Âge, en Espagne, dans les pays sous domination musulmane, ils avaient une certaine manière d'étudier. Dans le monde ashkénaze, en France, dans le nord de la France, en particulier Rabben Outam et les Baléa Tosavot, ils avaient une autre démarche dans l'étude. Et on voit que c'est deux démarches totalement différentes. On voit que dans le monde séfarade, ils avaient pour intention très importante de codifier la halakha. Donc ils ont étudié le Rif, par exemple. Il recopie la Gemara et son livre, c'est prendre des passages de la Gemara, mais il ne prend les passages de la Gemara qui sont uniquement halakha les maaseh. Tout le reste, il ne s'en occupe pas. Et d'ailleurs, il y a des macertot entières où il n'y a pas de rif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté à l'halakha. Kodashim, tout ça, ils s'en occupent pas. Sanhedrin, les trois quarts de la macerette, ils s'en occupent pas. Donc ça, c'est un derrière. Ce qui l'intéresse, c'est d'arriver, de parvenir à un psak. Pourquoi? Parce que c'est les conditions dans lesquelles ils vivent, ils sont influencés par l'environnement, et il y a une influence certaine et un besoin de psaque par rapport à l'environnement qui les entoure. Donc le limoud, il va permettre ce limoud-là. Et Rambam lui-même dit dans Yad HaHazaka qu'il a écrit de telle sorte qu'on n'a plus besoin de Gemara. On peut lire son livre et savoir ce qu'il y a à pratiquer. Donc il y avait une nécessité de codifier de manière à ce que ce soit clair aux yeux des individus, aux yeux de la communauté, parce que c'est l'influence, c'était l'influence du moment par rapport à la société environnante. Donc il devait se renforcer pour ne pas être influencé et ne pas perdre ne pas disperser la communauté. Donc il y avait une intention qui est un derech alimoud qui est du fait de la conjoncture. Les Barnei HaTosafot, ils ont une autre démarche, par exemple. Donc, l'essentiel pour eux, c'est de commenter le Talmud. Ils considèrent le Talmud comme étant une seule entité, un seul corps. Et quand il y a des contradictions, donc ils savaient tout le Talmud, et il y a des contradictions, donc ils essaient de répondre. Il ne peut pas y avoir de tel sugya contredit tel autre sugya, on dit ils ont changé d'avis. On ne change pas d'avis. Alors il faut trouver des... Donc c'est très intellectuel. Donc l'essentiel, c'est d'interpréter. Et il n'y a pas de... On n'arrive pas dans les balais à Tosafot, à des conclusions ilkhatiques, c'est juste des discussions, des sujets, on soulève des problèmes, on propose des solutions, mais ce n'est pas absolu. La discussion peut se poursuivre au-delà de Rabbeinu Tam, de Ri, Balat Tosafot, etc. Ça peut se poursuivre. C'est une démarche de commentateur, d'exégèse, de parchanout pour alimenter la force intellectuelle, et les élèves sont proposent des solutions qui peuvent être adoptées ou ne pas être adoptées, contredites par ceux qui viennent après. Donc on voit pourquoi, parce que c'est l'environnement dans lequel on vit. Tout dépend de l'environnement, donc ils ont besoin de se renforcer d'adopter cette manière de faire par rapport à l'environnement, des conditions sociologiques dans lesquelles ils vivent. Et il en va de même, ce sont des exemples, il en va de même, donc quand on arrive à la fin du 19e, au début du 20e, on voit que les Sfaradim, ils ont un derech alimud et un Sfaradi, ils s'attachent au texte, ils décortiquent les rachis, les tosphodes, les détails, etc. Alors que dans le monde européen, on fait des pilpoulim, les Sfarot, et de la lamdanout. Pourquoi? Parce que c'est le développement intellectuel. Donc on veut montrer aux élèves la puissance intellectuelle qu'il y a dans la Torah, donc les svarot, etc., la lamdanout, pour les encourager à étudier et qu'ils n'aillent pas se perdre par rapport au développement des universités, etc. Donc le développement intellectuel de ce qui se passe dans le monde universitaire, par exemple. Donc on a besoin de se renforcer pour contrer les effets néfastes, hostiles de l'environnement. Et on va à peu près de même. Alors que chez les Sfaradim, il n'y a pas cette notion-là. Le modernisme rentre que tardivement. Donc au 19e, il n'y a pas ce développement intellectuel de vouloir dire des Sfarot, etc. De vouloir faire des gesticulations intellectuelles pour comprendre en profondeur, etc. Des trucs de montrer la lame d'un autre qu'il y a. C'est un autre derrière, parce qu'il y a une sociologie et un environnement différent. Alors c'est exactement la même idée qui est mentionnée ici. Yaakov Avinu s'apprête à aller Padena Aram. Il va affronter Lavan. Il sait qui est Lavan. Lavan, c'est un Kohar Atuma. Kohar, il a une force. Bavel, c'est donc ils sont à Bavel. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Bavel? Ils mélangent le lait et la viande. D'ailleurs, quand Eliezer va rencontrer arrive là-bas, et rencontre Bethuel et Lavan, et il raconte les événements, il lui répond: nous ne pouvons pas dire ni du bien ni du mal. Le local de Beritra, le Rav et l'Otop, on ne peut pas dire ni du bien ni du mal, ni du mal ni du bien. Pourquoi, quel est pour empêcher ou accepter que Rivka t'accompagne? C'est quoi le bien et le mal? Et c'est ça le sens de Bavel. Bavel, c'est le mélange. Il n'y a pas, et c'est le mélange du bien, le bien est enfoui dans le mal. Le bien est enveloppé dans des choses qui, en apparence, ça peut être bien, mais au fond, il peut avoir des effets négatifs. Et on nous dit, la Gemara nous dit, que Nebuchadnezzar, qui est le symbole de la Babylonie, il mangeait du bassar vechalav, il mangeait ces deux éléments-là, ce que la Torah veut distinguer, séparer et placer dans deux dimensions différentes, il est mélangé. Donc c'est ça, cette notion-là. Et en dehors de ça, ça l'idée que Yaakov va dire à Laban, tu m'as changé le salaire à 10 reprises, à chaque fois, tu dis comme ça, tu reviens, tu redis, et tout, à chaque fois, il s'est justifié. Ce n'est pas clairement une tromperie. C'est à chaque fois, il se justifie. Il a des raisons, 1000 raisons pourquoi il ne tient pas parole, et pourquoi il le retient, et pourquoi il ne veut pas le payer, et pourquoi il lui change les conditions. Et Yaakov doit être suffisamment fort pour lui tenir tête et avoir une confiance absolue en Dieu qui va le mener à la fin, dévoilement de Dieu, il va ramasser toutes ces richesses-là de Laban pour obtenir sa femme et pour obtenir sa deuxième femme, etc., etc. Tout ça, c'est des trafics que et ça, Yaakov doit se préparer. Pourquoi 14 ans ? Parce qu'il sait qu'en fin de compte, qu'il devra travailler 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Léa. Et lui, il veut, il met condition qu'il va travailler 7 ans. D'abord, il travaille 7 ans pour obtenir Rachel. Mais en vérité, il a travaillé 7 ans et il a obtenu, on lui a mis Léa. Donc, alors ici, il y a un complot. Non seulement Laban le trompe, mais ses filles aussi participent à la tromperie Kaviachol. Donc, comment arriver à distinguer la tromperie de Laban, la tzitkout de Rachel qui va donner à sa sœur pour ne pas la mettre dans une situation fâcheuse. Comment Léa accepte cela, il ne va pas lui dire, tu sais, tu crois que c'est que je suis Rachel, mais moi je suis Léa. Pourquoi elle ne lui dit pas ? Savoir distinguer, pourquoi comprendre les agissements des tzadikim qu'il y a dans cette famille, de ceux qui se comportent bien, et ceux qui se comportent mal. Comment comprendre ? Comment distinguer ? Comment arriver à définir et à justifier cela et pas cela ? Tout ça, il doit l'apprendre de Shem et Ever. Ça ne s'apprend que de Shem et Ever. Shem et Ever, ils ont une Torah qui vient de Noach. Et cette Torah-là, elle vient de Adam Harishon. C'est une Torah qui est universelle. C'est la Torah universelle. Donc, c'est le raisonnement, le limoud, la puissance de raisonnement. Et le Bavel, donc nous avons dit, c'est le mélange. Donc il faut arriver, le Talmud Babli, tout mélanger. Donc il faut arriver à être mevarer, arriver à distinguer le bon du mal. Et comme Rami nous dit, l'asuke shema teta libadil cheta, il faut être amel batora. Dans le Talmud Babli, c'est l'obscurité. La Gemara dit que Bamchashekim Oshivani, tu m'as installé dans l'obscurité, dans un tunnel obscur, c'est le Talmud Babli. Et je dois m'y adonner avec force, concentration, pour arriver à savoir distinguer, à sortir la farine, la fine fleur de farine et éliminer tout ce qui est, toutes les écorces, enlever les couchottes. Comme dit le Hari, on a des centaines de questions et insoluble dans le Talmud, et il voit les couchottes sur chaque avis qui est donné, sur chaque svara, on a des couchottes, il faut arriver à les éliminer, afin de faire jaillir la lumière. C'est exactement dans la pratique ce que Yaakov Avinu va devoir affronter dans cette famille d'escrocs, de dangers publics, avec la Kohatouma, et ils sont très forts dans la Avodah Zara. Ils sont très forts dans les apparences. On te donne l'apparence d'être un tzaddik et en vérité, on te fait un piège, etc. Tout ça, il faut arriver à distinguer. Parce qu'en fin de compte, Yaakov Avinu, il doit prendre Léa. Il va prendre Léa. Et il doit prendre Rachel. Mais lui, il voulait Rachel et pas Léa. Comment faire que Léa, elle ne soit pas rejetée ? Parce d'ailleurs, il lui dit, tu es la digne... Tu es digne fille de ton père. Ton père, c'est un menteur, un escroc, un rusé. Et toi, tu es la même. Et elle va lui répondre. Elle va lui répondre. Mais quand ton père appelle à Esav, tu dis que c'est toi. J'ai appris de toi. Donc on voit que toute cette force-là de savoir distinguer savoir distinguer le bassar du chalav, ne pas mélanger le bassar avec chalav, ne pas ce mélange, ce ramassis, tout est méopale, rien n'est évident. Il faut arriver à percer les écorces. D'ailleurs, c'est l'idée que Chazal nous dise quand Yaakov il arrive au puits et le bouchon, il y a la grosse pierre qui est posée sur le puits et que Yaakov va lever, attendre quand il voit Rachel arriver, il se donne la puissance, la force. Soudain, il se sent inspiré d'une force surhumaine. Et lui tout seul, il est, on dit Shimshon, qui est tout d'un coup la puissance physique lui est donnée. Et d'un coup, il lève la pierre pour que l'eau jaillisse, pour que les troupeaux et les bergers aient accès à l'eau. Nous dit le Hari, à la Vacham, il dit que ça, c'est la Kushia qui est sur qui empêche la lumière de jaillir. C'est une Sugia de chasse qui est très difficile. Et on a des centaines, des dizaines de questions insolubles qui sont là, qu'on ne peut pas briser. Et Moshe, et Yaakov, d'un coup, il enlève les couchiotes. Donc c'est ça ce qu'il vient, c'est cette démarche-là qu'il doit pratiquer, exercer, pour pouvoir, en fin de compte, sortir au bout de 20 ans, arriver 22 ans, avec toute sa la famille, construire la Beth Israël. Ça, c'est ce qu'il apprend chez Shem et Ever, la Torah universelle, qui va permettre, et automatiquement, c'est les Shiva Mitzvot de Noir, ça va être, c'est Shiva Mitzvot, ça concerne les 70 nations, donc il y a quelque chose d'universel dans la force de Shem et Ever pour permettent à Yaakov de construire la maison d'Israël dans un environnement hostile, mais super hostile, qui est la maison de Lavan, qui est Babel. Nebuchadnezzar, mélange du lait et de la viande. À l'opposé, il y a la maison de Yitzhak. Il y a le Beth Amidrash de Yitzhak. Et là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? Là-bas, on apprend autre chose, une autre dimension. Comment se renforcer? Le limoud, il est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, il doit affronter Esav. De chez Yitzhak, il apprend comment affronter Esav. Quelle différence? Esav, il est appelé Israël Moumar. Donc, il y a un danger. Donc, quelle est la démarche? Qu'Israël Moumar, il faut arriver à être mécaré, il faut arriver à le ramener. Et nous savons que toute la Torah chez Béalpé qui nous sera transmise, elle nous est transmise à partir de Esav. Esav, il a un potentiel énorme, intellectuel énorme, immense, et qui nous permet, dans la transmission au cours des générations, que toute cette Torah-là va nous parvenir par Rabbi Meir, Rabbi Akiva, le Shmuel Avtalion, tous ces gens-là qui sont les ceux qui transmettent la Torah, tout ça vient de Esav. Et c'est pour ça que dans la paracha prochaine, il y a marqué que Yaakov il a peur de tuer Esav. Pourquoi? Parce que s'il tue Esav, alors tout ça va être perdu. Donc c'est cette force-là que c'est ça, nous disons qu'Itzaïd Bepiv, que Itzhak il aimait Esav parce qu'il était tzaï par la parole. C'est quoi la parole? L'alakha. Comment être mevarer l'alakha, il dit, et comment on fait le maaser sur la paille, sur le sel? C'est pile poule. Ça ressemble un peu à des questions qui sont théoriques. Comme les balades, tout ça, il pas intéressé dans l'alakha. C'est la gesticulation, le principal, c'est la question. La réponse à l'Alchik, ça ne m'intéresse pas. Je veux réfléchir comment... Ça, c'est la force de Esav. Ça, c'est la force de Esav. Et ça, Yaakov doit lutter contre lui en apprenant de Yitzhak. C'est ça la force. Donc il y a deux limouds. Il y a un limoud, comment prendre le bon du mauvais et éloigner le mauvais, faire le psak halakha si on veut, de prendre le verger la lumière et éloigner ce qui est négatif, savoir distinguer le bon du mauvais. Et il y a la discussion intellectuelle, le plaisir de discuter intellectuellement des svarot de la Torah sans chercher particulièrement à arriver à fixer une halakha. Ça, c'est la force de Yitzhak avec... Et c'est deux facettes-là. Donc, du fait que Yitzhak, il y a marqué, « Vaishma Yaakov et la vie, velimo, va aller pas des Naharam. » Ah, parce que c'est parce qu'il devait aller pas des Naharam et qu'il devait affronter l'avant qu'il est parti 14 ans à la Yeshiva. Pourquoi 14 ans? Parce qu'il y a 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. C'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Donc, en réalité, le limoud à Torah, il y a plusieurs manières d'étudier, l'essentiel étant de se renforcer par rapport à... Et à chaque génération, il y a un derech limoud particulier qui évolue. Nous voyons, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait une derech limoud en France. Et après, nous allons voir après la Renaissance, alors on va voir que le monde, la démarche intellectuelle va changer. On voit l'apparition du Maharal. Donc il y a une différence. Après on voit à ce moment la Kabbalah, même en Italie. Tout ça c'est un renouveau. Et le derech Halimoud aussi, même dans le chasse et les poskim, il va changer. On voit que en fonction de la situation de la génération et de l'évolution sociologique de la société environnante, nous sommes influencés. Pourquoi? Parce que nous devons nous prémunir contre l'influence négative que peut avoir la société environnante. Donc c'est ça l'idée qui est marquée ici. Il va pas des Naharam. Donc pour aller pas des Naharam, pour pouvoir contrer la vanne et toute sa philosophie, la civilisation de la tromperie, que le bien et le mal, ils sont le bien et le mal, c'est la même chose, on n'arrive pas à les distinguer. Ça, il est obligé d'aller étudier chez Shem et Haever, de telle sorte qu'il puisse réaliser la volonté de son père, c'est de construire la maison d'Israël, de sortir le bien et de laisser ce qui est négatif. Et c'est pour ça qu'il arrive à percevoir que quand bien même en apparence Léa l'a trompé, et quand bien même Rachel en apparence elle a participé à la tromperie en donnant les simanim à sa sœur, etc. Tout ça, c'est une hashgara. Donc il y a ici une vision prophétique, de une vision inspirée de compréhension des événements. Comment la providence agit là où, a priori, elle semble être absente. Et de percer dans l'obscurité, et arriver à voir la lumière, que tout ce qui arrive, c'est Yad Hashem. Ça, c'est une vision qu'il a appris grâce à Hashem et Ever. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.